qu'ils ne soient pas seulement châtiés comme des chiens enragés, mais jugés avec le droit, jugés avec des preuves, jugés avec la conscience des hommes.
Bonjour, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro du Fil de l'Histoire. Aujourd'hui, on parle des procès de Nuremberg et de Tokyo en 1945-1946. Nuremberg et Tokyo, comment a-t-on jugé les crimes de la Seconde Guerre mondiale ? De novembre 1945 à octobre 1946, pour la première fois de l'histoire, à Nuremberg, en Allemagne, des magistrats allaient juger les crimes du Troisième Reich. Complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, mais aussi, une nouveauté en droit, des crimes contre l'humanité. Un tribunal qui allait poser les bases d'un droit international. Entre-temps, loin de l'Europe, un autre procès allait débuter en avril 1946, le procès dit de Tokyo, mis en place pour juger les grands criminels de guerre japonais. Un procès qu'aujourd'hui on a un peu oublié, un historien américain a parlé d'un trou noir de l'histoire du XXe siècle. De même qu'ont été souvent oubliés les crimes commis par le Japon, responsable de la mort de millions de personnes. Pourquoi les Alliés ont-ils considéré nécessaire de juger les crimes allemands et japonais de la Seconde Guerre mondiale ? Et comment ces tribunaux internationaux ont-ils relevé ce défi titanesque, à la fois juridique, moral et politique ? On en parle aujourd'hui avec vous, Annette Wiewiórka. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et l'autrice d'un livre, Le procès de Nuremberg, disponible chez Liana Lévy.
France Inter. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich, mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges.
Le 25 novembre 1945 s'ouvre le procès de Nuremberg. Ironie de l'histoire, c'est dans cette ville allemande qu'Hitler célébrait l'anniversaire du parti nazi par des cérémonies grandioses. Là où 10 ans plus tôt, il annonça les premières lois antisémites, dites « lois de Nuremberg ». La ville, depuis, a été détruite à 90% par les bombardements alliés. Le palais de justice, c'est avec la prison et le grand hôtel, un des rares bâtiments encore debout. Pour le procès, les Américains ont dû rétablir en hâte l'électricité, l'eau, le téléphone et la circulation des tramways. Le tribunal, ce jour-là, est plein à craquer. Juges venus des quatre pays vainqueurs, États-Unis, Union soviétique, Royaume-Uni et France, avocats, greffiers, interprètes, journalistes du monde entier, spectateurs, et puis, assis dans le box qui leur est réservé, comparaissent 21 des 24 accusés, tous des dignitaires du Troisième Reich. Parmi eux, notamment, Hermann Göring, Rudolf Hess, von Ribbentrop. Dans la salle, le journaliste et écrivain Joseph Kessel les observe. « Les voici, écrit-il, les anciens maîtres insolents et impitoyables, les faux demi-dieux. Les voici tirés de leurs cellules, assis sur leurs bancs, serrés les uns contre les autres, ils ne sont plus que des accusés, tous aussi insignifiants ou vulgaires ou médiocres. » Beaucoup de hauts responsables nazis, morts ou en fuite, sont absents. Le premier d'entre eux, bien sûr, Adolf Hitler, qui s'est suicidé le 30 avril dans son bunker à Berlin. Tout comme Joseph Goebbels le jour suivant. Mort aussi Heinrich Himmler, le chef de la SS, principal responsable de la mise en œuvre de l'extermination des Juifs, qui a avalé une capsule de cyanure après son arrestation le 22 mai. Parmi les accusés absents, Martin Bormann, que l'on croit vivant et en fuite, sera jugé et condamné par contumace.
Les accusés plaideront-ils coupables ou non coupables ? Là-dessus, ils sont tous d'accord, non coupables.
Wilhelm Göring.
Göring le premier. Il amorce un discours.
Gerichtshofes beantwortet, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne.
Mais le président le rappelle à la question. Coupable ou non coupable?
Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Rudolf S.
Nein.
Ribbentrop.
Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig.
Keitel.
Ich bekenne mich nicht schuldig.
Von Papen.
Ich bekenne mich keinesfalls schuldig.
L'audience est suspendue. Le procès sera long. Mais ces hommes qui ont été au sommet de la puissance, qui ont cru tenir le monde dans leurs mains, ces hommes aujourd'hui vaincus, saisis et accusés, ces hommes savent bien que le monde ne leur pardonne pas et que l'heure de payer est venue.
Arrive l'heure du réquisitoire, prononcé par le procureur général Robert Jackson, juge américain, qui exprime son ambition d'avoir un procès impartial et équitable, sans esprit de vengeance. Le privilège d'inaugurer dans l'histoire le premier procès pour des crimes contre la paix du monde impose de graves responsabilités. Les méfaits que nous avons à condamner et à punir sont d'une telle vilainie et ont été si nuisibles que la civilisation ne pouvait se permettre de passer outre, parce qu'elle ne pourrait continuer à exister si jamais il devait se répéter. Annette Wiewiórka, on entend la solennité de l'ouverture du procès de Nuremberg et du discours du procureur Jackson. Ce procès doit servir pour l'histoire.
Ce procès d'abord doit clore la guerre et il doit servir à ancrer un nouveau droit international. Et la préoccupation des Américains, celle de Jackson, on l'entend déjà dans son discours, puisqu'il dit « c'est le crime contre la paix du monde ». Donc ce qui intéresse au premier chef les Américains, c'est la paix du monde après deux guerres mondiales, deux guerres où ils sont venus au secours de l'Europe.
Vous voulez dire qu'ils ne veulent plus intervenir dans le monde ?
Je ne dirais pas ça. Chacun sait qu'il y a toujours une oscillation aux États-Unis entre intervention et isolationnisme. Mais ils veulent mettre la guerre hors la loi.
Dans le box des accusés, il y a 21 accusés, donc des hauts dignitaires du Troisième Reich. Beaucoup ne sont pas là. Comment ces hommes ont-ils été choisis ? Comment ils ont été arrêtés ?
On a l'impression que les 21 qui sont là devaient être là. Mais en fait, les choses sont toujours un peu plus compliquées. Un certain nombre d'entre eux s'imposent. Göring, Rudolf Hess, von Ribbentrop, par exemple. Et puis, il y a cette histoire de crime contre la paix. Donc vous avez 4 militaires. Ils ont été arrêtés principalement par les Américains et par les Britanniques. Or, ça met un peu les Soviétiques malheureux. Donc on va rajouter ceux qui ont été arrêtés par les Soviétiques, dont un homme un peu insignifiant, enfin qui n'est pas au niveau, si je puis m'exprimer ainsi, qui s'appelle Hans Fritsch, qui est un propagandiste, et il est là parce qu'il a été arrêté par les Soviétiques et pour faire plaisir aux Soviétiques.
Depuis quand les Alliés ont-ils décidé de faire un procès ?
L'idée, elle était déjà présente dans le traité de Versailles, à la fin de la Première Guerre mondiale, où il était prévu de juger Guillaume II. Mais Guillaume II était en fuite, il n'y a pas eu de procès. En fait, la discussion a commencé après l'entrée des Allemands en Union soviétique et la connaissance des crimes abominables qui ont été perpétrés par les nazis, par les Allemands. Et il y a eu des discussions internationales, une première déclaration, la déclaration de St. James, qui donnait dans les buts de guerre de punir ceux qui commettaient des crimes de guerre, et puis ensuite une série de conférences internationales. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont les trois grandes puissances, la France ayant rejoint un peu plus tard, ont défini ceux qui devaient être jugés par un tribunal international. C'est-à-dire qu'ils ont fait une distinction entre les grands criminels, majors, ceux qui sont responsables des crimes dans plusieurs pays, et ceux qui ont perpétré leurs crimes dans un seul pays. Et ceux-là doivent être jugés dans le pays où ils ont perpétré leurs crimes.
Les Alliés n'étaient pas tous d'accord avec l'idée d'un procès. Je crois que Churchill était assez
favorable. Oui, de façon étonnante, parce qu'en général, on est tellement gênés par le fait que ce soit Churchill qu'on met ça sur le dos de Staline, qui n'en méritait pas tant. Et Churchill disait, il y a une commission des crimes de guerre qui a une liste de criminels de guerre et des crimes qu'ils ont faits. Il suffit de les reconnaître et on les fusille. Et puis finalement, ça a été l'idée quand même d'un procès qui a triomphé.
Le procès de Nuremberg, s'appuyant comme le veut le droit anglo-saxon sur la lecture de preuves écrites plus que sur des témoignages, rapidement, dans le tribunal, s'installe un sentiment d'ennui et de monotonie, accentué par la nécessité des traductions simultanées. Une grande première dans un procès qui permet à tous, sous un casque, de suivre les débats dans sa langue, mais qui oblige aussi à parler lentement. Même les accusés, qui le savent avec ce procès, risquent la peine de mort, se mettent à somnoler. Mais il arrive aussi qu'ils éclatent de rire. Le 29 novembre 1945, suite à la lecture d'un document, il se passa quelque chose d'incroyable, raconte Joseph Kessel. Göring fut pris soudain d'un rire plein, entier, débridé, impossible à contenir, qui se propage alors dans tout le box des accusés. Ce rire, indécent et désastreux, décide le procureur Jackson à bousculer l'ordre du jour. Il ordonne dans l'heure la projection d'un film tourné par les Américains à l'ouverture des camps de concentration nazis. Des images terrifiantes et accablantes, bien connues aujourd'hui, mais qui, ce jour-là, dans le tribunal, vont marquer les esprits. Avec ce film qui sentait la mort, se souviendra Robert Jackson, l'enfer lui-même avait répandu son souffle sur le prétoire. C'était l'électrochoc dont le dossier d'accusation avait besoin. Les accusés en furent profondément découragés.
Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises.
Autre moment fort du procès de Nuremberg, le 28 janvier 1946, le témoignage de Marie-Claude Vaillon-Couturier. Cette résistante française revenue de déportation, la première femme à s'exprimer à la barre, fait grande impression. Se présentant en combattante et non en victime, elle est la première à raconter en détail l'enfer d'Auschwitz-Birkenau au nom de tous ceux et de celles qui ne sont pas revenus, dit-elle. Lorsqu'au bout de 2 heures, elle quitte la barre, Marie-Claude Vaillant-Couturier longe le box des accusés et les fixe dans les yeux. Elle racontera plus tard « Je voulais voir de près comment pouvaient être des hommes capables d'avoir accompli un tel crime et je voulais en même temps qu'ils me voient et que c'était par mes yeux des millions de victimes, hommes, femmes et enfants, qui les voyaient et qui les jugeaient. » Mais les nazis et le premier d'entre eux, Hermann Göring, comptent bien encore se battre. Le 15 mars 46, la parole est à la défense. Celui que tout le monde attend et redoute, Hermann Göring vient le premier à la barre. Devant une salle comble, cet orateur habile va parler pendant 3 jours, multipliant les mensonges, niant sa responsabilité dans les crimes, transformant sa déposition en tribune pour sa propre postérité et celle du national-socialisme. Göring, qui sait qu'il va être condamné à mort et qu'il joue là sa dernière carte, est si habile et sûr de lui qu'il réussit à mettre hors de lui le procureur Jackson.
En tant que ministre-président de Prusse et ministre de l'Intérieur,
faisons la passe là-dessus, ce n'est pas ma question. Contentez-vous de me répondre. On gagnera du temps. Votre avocat pourra fournir toutes les explications que vous voulez.
Le procureur britannique Sir David Maxwell Fife aura plus de succès quand il lui rappellera l'exécution sommaire de 50 prisonniers de la Royal Air Force, attaquant directement son honneur de soldat qui, prétendait Göring, lui tenait très à cœur. À Neuwirka, on a l'impression que ce procès Nuremberg alterne de longues phases de monotonie, d'ennui. C'est le travail des juristes qui veut cela. Et puis des moments plus dramatiques. Beaucoup de journalistes sont partis d'ailleurs assez vite du procès. Marie-Claude Vaillant-Couturier elle-même se plaignait de la lenteur du procès.
Oui, effectivement.
On est dans l'antithéâtre.
Effectivement, Jackson, le procureur, a décidé que ce procès ne serait pas un procès spectacle, mais que ce serait un procès fondé sur des documents. Donc le procès, c'est des longues lectures de documents, vous l'avez dit, avec en plus la traduction simultanée, c'est très long, c'est très monotone, c'est très ennuyeux. Et il y a quelques moments, les moments qu'on reprend tous, c'est le film du 29 novembre, Concentration Camps, qui est en fait un film de montage de films pris par les Alliés lors de l'ouverture des camps
et qui des camps de concentration.
Des camps de concentration et qui est difficilement regardable, même si maintenant on connaît beaucoup de ces images. C'est ensuite le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui a de plus été filmé, pas en totalité, mais en partie.
C'est très fort.
Et qui fait partie des très rares témoins victimes. Parce que les témoins qui sont appelés à la barre à la fois par l'accusation et par la défense, ce sont des témoins que j'appellerais documentaires. C'est-à-dire, ils sont là pour expliquer, pour permettre de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est juste le procureur adjoint français, qui s'appelle Charles Dubost, qui lui décide de faire témoigner 8 personnes qui sont des survivants des camps de concentration. Un Espagnol, Boix, qui est connu parce qu'il a photographié à Mauthausen, et pour Auschwitz, et c'est un choix qui peut interroger, il choisit Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est en quelque sorte une exception dans la déportation à Auschwitz, puisqu'elle a fait partie de ce petit convoi de 230 femmes que l'on connaît très bien parce que la grande écrivaine Charlotte Delbault a écrit Le convoi du 24 janvier 1943, et qui est un convoi qui est composé pour moitié de résistantes, et beaucoup d'ailleurs de veuves, puisque les maris ont été fusillés au Mont-Valérien, de communistes.
Donc il n'y a pas de juifs qui vont témoigner
à Nuremberg, sauf à la fin du procès, dans l'accusation soviétique, où il y a notamment le grand poète yiddish Avroum Souskever. Et le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier est un témoignage qui n'est pas un témoignage de victime, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a quelques moments forts, où d'ailleurs les journalistes reviennent, et par exemple, le contre-interrogatoire de Göring par Jackson, où il met Jackson en difficulté. Göring, c'est le seul des 21 accusés présents à la barre à assumer ce qu'a été le nazisme, à ne pas être effondré, à ne pas être contraint. Et il suscite d'ailleurs une forme de, j'ai presque envie de sympathie chez les juges.
Une séduction.
Voilà. Et le juge Falco, le juge adjoint français, dit « On a examiné d'abord le cas de Göring et la gorge serrée, à l'unanimité, on l'a condamné à mort. »
La gorge serrée.
La gorge serrée, parce que il avait son intelligence, mais ce qui a aussi terni, vous l'avez dit, le fait que des soldats aient été exécutés, mais c'est aussi le détail de son appétit artistique et le détail de son pillage des œuvres d'art.
Des musées,
Et là, ça l'a mis en difficulté avec ses co-détenus. Quand ils ont vu l'ampleur de ce qu'avait pillé Göring.
En ce qui concerne les crimes contre l'humanité, c'est la première fois que ce type de crime est évoqué dans un procès ?
Absolument. C'est vraiment la novation juridique avec le crime contre la paix du procès. Et la définition du crime contre l'humanité a été assez laborieuse. On dit qu'il y a eu 15 versions et le crime contre l'humanité recouvre beaucoup les crimes de guerre, mais la différence, c'est que on montre bien qu'il y a une volonté de désigner un certain nombre de personnes comme devant être assassinées. Donc ça recouvre quand même très largement le génocide des Juifs, le terme de génocide étant pratiquement peu usité, usité dans le procès, je crois, 5 ou 6 fois. C'est un mot, un concept qui vient d'être inventé par un juriste qui s'appelle Raphaël Lemkin et peu présent. Il n'est pas dans les qualifications juridiques de Nuremberg, mais très très vite, dès 48, il va aussi rentrer dans le droit international.
This is the G.I. Jive, man alive. It starts with the bugler blowing reveille over your bed when you arrive. Jack, that's the G.I. Jive. Rootledy-toot, jump in your suit, make a salute. Voot! After you wash and dress, more or less, you go get your breakfast in a beautiful little cafe they call the Mess. Jack, when you convalesce, out of your seat, into the street, make with the feet. Reet! If you're a PVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the L-I-E-U-T, the M-B makes you K-B on the Q-T. This is the G.I. Jive Man Alive. They give you a private tank that features a little device called Fluid Drive. Jack after you revive. Chunk all your junk back in the trunk. Fall on your bunk. Clunk. Jive Man Alive. They give you a private tank that features a little device called a Fluid Drive. Jack, if you still survive, chunk all your junk back in the trunk. Fall on your bunk. Clunk. Soon you're counting jeeps, but before you count to five, seems you're right back digging that G.I. Jive.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Dans les premiers mois du procès de Nuremberg, la question de la persécution des Juifs est évoquée, mais de manière dispersée. Ce n'est qu'en janvier 1946 que le génocide fait son entrée dans le tribunal, avec l'audition pour la première fois d'un acteur du génocide, Otto Eulendorf, qui faisait partie des Einsatzgruppen, ces commandos qui, lors de l'invasion de l'URSS, avaient reçu l'ordre de liquider les Juifs. « Quand vous dites liquider, demande le procureur, voulez-vous dire abattu ? Oui, je veux dire assassiné. Y compris les enfants ? Oui. Tous les enfants juifs ont été massacrés ? Oui, tous. » répond Eulendorf, qui avoue sa responsabilité dans la mort de 90 000 personnes. Vient à la barre un autre témoin capital, Dieter Wisle-Seni, qui va révéler le rôle d'Adolf Eichmann dans le projet, appelé « Solution finale », d'exterminer tous les Juifs d'Europe. À l'époque du procès de Nuremberg, le nom d'Eichmann est inconnu, et surtout son rôle dans le génocide. En apprenant dans les journaux la déposition de Wisle-Seni, Eichmann, qui se fait passer alors pour mort, organise sa cavale qui le conduira en Argentine où en 1960, il sera enlevé par les services secrets israéliens pour être jugé. Le 15 avril 1946, donc 5 mois après le début du procès de Nuremberg, c'est le témoignage de Rudolf Höss, commandant SS du camp d'Auschwitz-Birkenau, qui va révéler la spécificité de ce centre de mise à mort destiné aux Juifs. Il raconte à la barre comment il a été convoqué par Heinrich Himmler, qui lui ordonne de transformer le camp d'Auschwitz en centre d'extermination. Et il décrit en détail le fonctionnement des chambres à gaz et des fours crématoires et affirme avoir mis à mort près de 3 millions de Juifs. Les historiens ramèneront ce chiffre à 1 million de morts. À la pause déjeuner, le témoignage de Höss provoque un lourd silence chez les accusés. Göring tente de remonter le moral de ses camarades en assurant que ce Rudolf Höss est forcément un Allemand du Sud. Jamais un Prussien n'aurait fait cela. Mis à part Hans Frank, qui était chargé en Pologne de l'extermination des Juifs, tous les accusés de Nuremberg, jusqu'au bout du procès, nieront avoir eu connaissance de la persécution des Juifs. le 30 septembre 1946, dans un palais de justice en état de siège, protégé par une garde renforcée, le tribunal de Nuremberg doit rendre son verdict. La salle bondée retient son souffle. 18 accusés sont déclarés coupables, 11 sont condamnés à mort, 7 à de lourdes peines de prison et 3 sont acquittés. Tous les recours en grâce ayant été refusés, les condamnés à mort sont pendus le 16 octobre, sauf Göring, qui s'est suicidé en absorbant une capsule de cyanure. Les corps des condamnés, Göring compris, sont incinérés et leurs cendres dispersées dans la rivière Isar afin d'empêcher tout culte sur les tombes des défunts.
Et 12 fois, l'on entendra, comme pour Ribbentrop, la parole fatidique « Death by hanging », la mort par pendaison.
On the counts of the indictment, the tribunal sentences you to death by hanging. Defendant,
pour Keitel, la mort par pendaison. Pour Göring, la mort par pendaison.
On which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging.
La corde pour 11 coupables, la prison pour 7 autres, la grâce pour 3. Nuremberg sera maintenant le nom d'une justice qui n'est pas l'expression de la vengeance mais d'une morale plus haute. Au-dessus des maîtres du siècle, il y a une justice.
Annette Viviorca, le procès de Nuremberg, qui a duré presque un an, s'achève. Vous écrivez dans votre livre qu'il a été à la fois productif et décevant. Pourquoi ?
Ce qui rend les choses un peu compliquées, c'est que Nuremberg, et puis on verra après Tokyo, ce sont des procès de fin de guerre, qui ferment la porte de la guerre. Mais le désir de certains juristes, c'est de mettre sur pied une vraie justice internationale. Or, on plonge immédiatement dans la guerre froide. Donc toute possibilité d'une justice internationale est comme gelée par la guerre froide. Et ça va reprendre, après la chute de l'Union soviétique, quand il sera possible de refaire des tribunaux ad hoc, La Haye et Arusha. Donc ça a été un procès très productif. Et le crime contre la paix, dont il n'a plus été question après Tokyo, il revient au moment de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et un juriste international qui est aussi un écrivain historien, Philippe Sand, décide qu'il faut recréer un tribunal dans le droit fil du droit de Nuremberg pour juger Poutine. Donc on a une extraordinaire productivité ou postérité des procès de Nuremberg. Alors, tous les procès sont toujours décevants.
Mais quelles sont ses faiblesses ?
Peut-être qu'il y a deux faiblesses dans ce procès, deux faiblesses majeures. La première faiblesse, c'est que si les questions de guerre d'agression, on aurait dû mettre l'Union soviétique aussi au banc des accusés, puisque le 17 septembre 1939, l'Union soviétique envahit à son tour la Pologne et que l'on sait par les protocoles secrets qu'ils se partagent la partie orientale de l'Europe, les Pays-Bas et un bout de la Pologne. Donc de ce côté-là, il y a quand même quelque chose qui peut sembler un peu...
Et le massacre de Katyn.
Et puis le massacre de Katyn. 15 000 officiers polonais qui sont faits prisonniers et on retrouve les corps de 4 000 d'entre eux dans la forêt de Katyn. Et dans l'acte d'accusation, les soviétiques réussissent à faire inscrire les morts de Katyn sur le compte des nazis. Alors que toutes les preuves, l'état des corps, le modus operandi qui est la balle dans la nuque, les papiers qui sont retrouvés sur les officiers montrent que ce n'est pas possible, que c'est la période où cette partie était occupée par les soviétiques. Mais malgré tout, quand Katyn arrive au procès, trois témoins défendent la thèse soviétique, trois autres démontrent que cette thèse est inepte, et dans le jugement, Katyn s'est volatilisé. Donc, il y a un des quatre pays vainqueurs, qui a commis guerre d'agression et au minimum crime de guerre.
Oui. Une chose m'a étonnée, Anna Viviorca, en préparant cette émission. Pour le verdict, le tribunal est protégé, gardé comme un bunker. Il y a des juges qui circulent en voiture blindée. De quoi est-ce qu'on a peur à ce moment-là ? On a peur d'une résurgence nazie ?
Je crois qu'on peut avoir peur d'une résurgence nazie. Parce que, bon là on est très très loin, mais les nazis sont jeunes. Et jusqu'à que dans les années 50, vous avez eu un certain nombre de nazis qui ont pensé qu'ils pourraient reprendre le combat et que la défaite n'était que momentanée, que la démocratisation de l'Allemagne à laquelle se sont employés les alliés, enfin de l'Allemagne dans la partie occidentale bien sûr, c'était quelque chose de provisoire.
Et aussi, c'est important, Nuremberg rejette l'immunité des chefs d'État, établit la responsabilité individuelle des dirigeants et rejette la défense fondée sur l'obéissance aux ordres.
Absolument.
On ne peut pas dire j'ai obéi à Hitler,
dire,
donc
j'ai obéi aux ordres et en fait j'ai rien fait, je suis pas responsable. Ce qui a été la stratégie de défense d'Eichmann à Jérusalem. Mais
1961.
Ce qui est important, c'est que le criminel n'est pas le soldat qui va faire un crime contre des civils ou qui va assassiner un prisonnier de guerre dont il a la garde. C'est pas ça que l'on veut. On veut traîner en justice les hauts responsables. Donc c'est très important comme notion qui est que ce ne sont pas les sous-fifres, même si les sous-fifres peuvent être assez élevés, oui. Mais ce sont vraiment les chefs qui sont responsables.
Et le crime contre l'humanité est donc entré pour la première fois dans un procès.
Alors le crime contre l'humanité est rentré pour la première fois dans le procès, mais il y est rentré quand même de façon limitée, puisque la définition du crime contre l'humanité, le crime contre l'humanité ne peut être commis que en lien avec le crime contre la paix. Ça veut dire que on ne pourra juger le crime contre l'humanité que quand ça concerne la Seconde Guerre mondiale. Alors depuis, le droit français a découplé ce crime. Donc maintenant, le crime contre l'humanité est indépendant
de la Seconde Guerre mondiale.
Mais ça a mis quand même beaucoup d'années.
Au Japon, voici que sonne pour Tojo et 27 de ses complices l'heure de la justice. Qu'y a-t-il au fond de ces têtes figées?
Le souvenir du jour de 42 où des porte-avions s'envolaient vers Pearl Harbor, les escadrilles chargées de bombes.
Loin de Nuremberg et de l'Europe, un autre procès débute au printemps 1946, le procès de Tokyo, qui doit juger les criminels de guerre japonais. Un procès oublié en Europe, mais qui en Asie et aux États-Unis a revêtu une importance capitale pour tous les peuples qui ont vécu dans leur chair la guerre sino-japonaise et celle du Pacifique. En Europe, la guerre a pris fin le 8 mai 1945, mais elle s'est poursuivie avec acharnement dans le Pacifique, le Japon refusant de se rendre. Mais en août, la déclaration de guerre soviétique, puis les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki ont contraint les Japonais à rendre les armes. Le 2 septembre 1945, la capitulation du Japon met fin cette fois pour de bon à la Seconde Guerre mondiale. Pour le général américain MacArthur, commandant suprême des forces alliées, il est urgent que naisse un nouveau Japon, moderne et démocratique. Ce qui impose d'abord de juger le régime militariste et expansionniste qui, depuis les années 1930, a entraîné son peuple dans des guerres de conquête dans tout le Pacifique et s'est rendu responsable de déportations, de tortures, de viols et de la mort de dizaines de millions de personnes aux Philippines, en Malaisie, Indonésie, Singapour et Bornéo.
2282 dossiers seront versés au débat. 205 experts déposeront et 35 attornés jugeront. Tout sera fouillé pour retrouver la vérité à travers 15 ans d'histoire difficile à cerner, car les Nippons, plus ombrageux que les Hitlériens, amorçaient toujours très secrètement leurs préparatifs de combat.
Après des milliers d'arrestations, plusieurs mois de commissions d'enquête, de collecte de documents et de témoignages, l'arrivée des magistrats du monde entier, le procès de Tokyo débute le 1er mai 1946. La capitale, lourdement bombardée l'année précédente, est en ruine. Le tribunal international se réunit dans un lieu encore debout et hautement symbolique, l'ancien quartier général de l'armée japonaise. Près de 200 000 personnes assisteront pendant 2 ans et demi à ce procès qui se déroule en anglais et en japonais. Sous l'autorité d'un procureur américain, Joseph Kinnan, le tribunal compte 11 juges de 11 nationalités, dont la France, en face des accusés. Les premiers sont 28 hauts dirigeants japonais, ministres, diplomates, chefs militaires, hommes d'affaires ou conseillers de l'empereur Hirohito. Mais, comme à Nuremberg, il y a beaucoup d'absents. Plusieurs hauts dignitaires du régime ont préféré se suicider plutôt que de subir la justice des alliés. Le général Honjo, responsable de l'invasion de la Mandchourie, a mis fin à ses jours. De même, l'ancien premier ministre qui s'est empoisonné. Un autre haut dignitaire japonais brille par son absence. Mais sur ordre du général MacArthur, celui que les Japonais appellent le shogun aux yeux bleus, le plus important des responsables est laissé en liberté, l'empereur Hirohito, figure sacrée pour les Japonais et qui, depuis le 1er janvier 1946, a renoncé à sa nature de divinité à forme humaine. Annette Viviorca, comment expliquer que le procès de Tokyo soit si méconnu en France ?
Toute la guerre dans le Pacifique et toute l'histoire de la Chine à partir des années 30 n'est pas très connue en France. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose qui est liée à la chronologie. Vous l'avez bien dit, il y a une sorte de décalage entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Asie. Alors que la capitulation allemande date, disons, du 8 mai 45. Il faut attendre plusieurs mois et les deux bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki, pour qu'il y ait une reddition des Japonais. Et quand débute le procès de Tokyo, pratiquement au moment où celui de Nuremberg se termine, on est déjà en pleine guerre froide. Donc il y a d'autres enjeux en Asie. L'Asie est très bouillonnante. Les indépendances, l'Inde, l'Indonésie, la guerre civile en Chine, le juge chinois qui est à Tokyo est envoyé par Chiang Kai-shek, par le gouvernement nationaliste, quelques mois après la fin de Tokyo, ça sera la proclamation de République populaire de Chine par Mao. D'ailleurs, le juge deviendra maoïste aussi. Mais voilà, donc on est dans une configuration chronologique et politique qui est quand même très très différente.
Mais est-ce que l'horreur des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki n'a pas aussi fait oublier les crimes japonais de la Seconde Guerre mondiale ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on a cette double identité de bourreau et de victime. Mais tout n'a pas été oublié. Je pense que parmi les crimes du Japon qui ne sont pas oubliés, c'est vraiment les massacres de Nankin en Chine.
On y reviendra,
voilà. Voilà. Donc il y a un certain nombre de crimes qui ne sont pas oubliés. Et puis la façon dont les prisonniers de guerre ont été traités.
Oui, ça aussi.
Quand même ce grand film, Le pont sur la rivière Kwai, qui est dans la mémoire de vos auditeurs les plus anciens.
Comme à Nuremberg pour les crimes nazis, pourquoi est-il si important de juger les crimes japonais ? Et puis, bon, quels sont ces crimes aussi ? Est-ce qu'il y a des crimes ? C'est des crimes de guerre ? Des crimes contre l'humanité ?
La curiosité quand même du procès de Tokyo, c'est qu'il s'inscrit dans l'ombre du procès de Nuremberg. C'est-à-dire que la charte qui va être utilisée pour le procès de Tokyo est une copie de celle de Nuremberg. Les crimes maintenant. Alors là, on a quand même une grosse curiosité. Crimes de guerre, dit conventionnel. C'est un peu compliqué à comprendre ce que ça veut dire conventionnel. Je pense qu'il faut l'entendre par crimes de guerre définis par les conventions internationales. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. C'est-à-dire le crime contre l'humanité n'est pas un chef d'accusation à Tokyo. Et en fait, quand on regarde un peu le procès, on s'aperçoit que ce qui a beaucoup occupé, c'était la question de la guerre d'agression.
L'attaque japonaise sur Pearl Harbor, on y reviendra également. Mais quelle a été la part de responsabilité de l'empereur Hirohito comment expliquer que le général MacArthur ait tenu tant à ce qu'il ne soit pas jugé ?
Alors, ces procès, ce sont aussi des procès politiques au sens où ils doivent servir à une politique. Et la politique de MacArthur, le shogun, comme vous dites...
Le shogun aux yeux bleus.
Voilà, c'est-à-dire, en fait, quasiment le gouverneur du Japon.
Il va rester pendant plusieurs années, d'ailleurs, gouverner
et
le Japon.
Son obsession, c'est de faire passer le Japon du côté des démocraties.
Oui, c'est à cause de la guerre froide.
À cause de la guerre froide. Oui, et puis je pense même comme projet, mais à cause de la guerre froide, certes. Et il comprend que la figure de Hirohito, avec qui il s'entretient personnellement, peut aider à souder le Japon, puisque les Japonais ont une vénération pour cet empereur qui est sacré. Et il pense que cette figure d'Hirohito peut souder le Japon. Donc, son idée, c'est de ne pas juger Hirohito. Et il sera d'ailleurs relativement suivi par les accusés qui se garderont de mettre en cause aussi Hirohito.
Oui, il faut protéger le Japon d'une invasion soviétique.
Pas forcément d'une invasion soviétique directe du Japon, mais vous avez d'autres enjeux dans la région. La Mandchourie, notamment, enfin un certain nombre de territoires qui ont été des enjeux entre l'Union soviétique et le Japon, et même entre l'Empire tsariste et le Japon, puisqu'on a cette fameuse guerre russo-japonaise
1905.
Qui date de 1905, voilà, et qui était une guerre pour la conquête de la Mandchourie. Il y a bien une compétition dans cette région d'Asie, oui.
Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, mon présent passé. C'est comme si j'avais au cœur un siècle de bonheur. Comme tout appris par cœur, c'est fou, c'est beau et ça fait peur. Retiens tout et même ce qui ne compte pas. Tous les mots qui me viennent ont été dits déjà. J'aimerais qu'une fois cesse cet air de déjà vu. Même mon premier amour, je l'ai déjà connu. Rien d'inattendu. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, ma réalité. C'est comme si j'avais au corps les vivants et les morts, comme un dedans dehors. C'est fou, c'est beau et un peu trop fort. Des gens qui savent comment oublier. Rien ne se perd dans ma mémoire, rien n'est effacé. C'est comme un mot qui se danse, ton chiffre porte bonheur, comme un numéro en absence, le dernier code avant l'ascenseur.
Stéphanie Duncan, Le fil de l'histoire.
Plus long que celui de Nuremberg, le procès de Tokyo, débuté en mai 1946, s'achèvera en avril 1948. C'est d'abord la politique expansionniste du Japon qui est mise en cause depuis les années 30 jusqu'à 1945. Le procureur Kinan revient d'abord sur l'invasion de la Mandchourie de 1931, menée par une armée de 40 000 soldats qui a conduit à l'occupation du nord-est de la Chine. Est appelé alors à la barre un personnage exceptionnel qui attire tous les regards, Pu Yi, le dernier empereur de Chine que les Japonais ont placé sur le trône du royaume fantoche de Manchukuo. À la barre, Pu Yi désigne sur le banc des accusés les responsables japonais auxquels, sous menace de mort, il devait obéir. Autre moment fort, l'évocation du sac de Nankin en décembre 1937. Après la Mandchourie, les Japonais ont poursuivi leur invasion de la Chine et, arrivés à Nankin, ont commis un massacre. 200 000 civils et prisonniers chinois sont sauvagement tués et entre 20 000 et 80 000 femmes et enfants violés par les soldats de l'armée japonaise. Au procès, le témoignage d'un missionnaire américain présent alors à Nankin et qui a pu filmer le massacre est accablant. Appelé à la barre, le général Iwane Matsui, qui commandait les troupes japonaises à Nankin, décline toute responsabilité dans les massacres.
Accusé Iwane Matsui, selon les termes de l'instruction sur la base de laquelle vous avez été déclaré coupable, le tribunal militaire international de l'Extrême-Orient vous condamne à la mort par pendaison.
Autre crime de guerre évoqué au procès de Tokyo, le traitement inhumain infligé par les Japonais à leurs prisonniers. À la barre, un soldat américain raconte notamment ce que fut en avril 1942 la marche de la mort de Bataan. Une marche forcée de jour et de nuit, sans eau ni nourriture, ponctuée d'actes de torture et de sauvagerie, où près de 10 000 prisonniers, américains et philippins, ont trouvé la mort.
Responsable, mais non criminel. C'est ainsi que se juge lui-même l'amiral Tojo. Il était président du Conseil du Japon lorsqu'il avait ordonné l'attaque sur Pearl Harbor. Les Américains ne lui pardonneront jamais cette agression. Tout recours en grâce auprès de la Cour suprême des États-Unis ou du général MacArthur se heurtera à la plus froide détermination.
Mais pour les Américains, l'objet essentiel du procès de Tokyo est de voir condamner les responsables de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Une attaque surprise qualifiée par les juges de crime contre la paix. Le 27 décembre 1947, l'audition de Hideki Tojo, qui était premier ministre japonais pendant la guerre, fait salle comble. D'autant, on le sait, que Tojo, avant le procès, a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la poitrine, mais la balle a raté le cœur et il a été sauvé par les soldats américains venus l'arrêter. Très digne dans son uniforme kaki, ce petit homme au visage intelligent et impassible affirme que cette guerre était purement défensive pour protéger le Japon. Sur la question de la responsabilité, lors de son premier interrogatoire, il déclare, je cite, « que nul ne pouvait s'opposer à l'empereur », ce qui signifie que seul Hirohito pouvait ordonner de bombarder Pearl Harbor ou de mettre fin à la guerre. Mais lors d'un second interrogatoire, Tojo se rétracte et affirme au contraire que son empereur a toujours été un homme de paix. Il prend donc sur lui l'entière responsabilité de la guerre et conclut par ces mots « Je pense que je n'ai rien fait de condamnable, seulement ce qui était juste et vrai ». Tojo sera condamné à mort et pendu en décembre 1948 comme les autres condamnés du procès. Après avoir été incinéré, ses cendres ont été dispersées dans l'océan Pacifique. Annette Wiewiórka, quelle est la part réelle de la responsabilité de l'empereur Hirohito dans le déclenchement de la guerre et comment expliquer que cette responsabilité soit totalement absente du procès ?
Quelles qu'étaient les responsabilités réelles de l'empereur, c'est pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est le maintien d'une société japonaise et la démocratisation de la société japonaise. Même s'il avait été totalement coupable de ce qu'avaient fait les militaires japonais en envahissant la Chine, enfin le Manchukuo, le nord-est de la Chine en 31, ou avec Pearl Harbor, qui intéresse beaucoup les Américains, ou responsable du ce qu'on appelait le sac de Nankin, les massacres de Nankin, en décembre 1937. Finalement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire passer le Japon de cette société qu'on considère comme un peu féodale et militariste à une démocratie. C'est ça le problème de MacArthur. Donc c'est ce qui est décidé avec une sorte de consensus qui est de ne pas toucher à Hirohito, même si les juges vont beaucoup en discuter. Mais pour les juges, le problème, il est même ailleurs. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de juges, notamment le juge indien, le juge français, Bernard, qui récuse même l'idée qu'on puisse accuser d'une guerre d'agression. Parce qu'ils estiment que la guerre d'agression n'est pas définie en droit au moment de l'agression, et qu'il n'y a aucune raison d'accuser de guerre d'agression. Et à la différence de Nuremberg, les juges vont s'opposer les uns aux autres. Le juge des Pays-Bas va être opposé à l'accusation de guerre d'agression, et le juge indien va considérer qu'à cause de tous les relents coloniaux de ce procès où les hommes blancs sont quand même extrêmement majoritaires, aucun des accusés japonais ne doit être condamné. On n'a pas eu ça à Nuremberg.
Oui. Alors, parmi les faiblesses du procès de Tokyo, on a souvent mis en cause le silence sur ce qu'on appelle l'unité 731, une unité de recherche bactériologique basée en Mandchourie par mandat impérial, qui était dirigée par un chercheur, un japonais, Shiro Ishii, dont les recherches, notamment sur la peste, avaient pour but de fabriquer des armes bactériologiques. C'est terrible, hein, il y a des injections de sérum qui ont été empoisonnées, qui ont été pratiquées sur des civils chinois, qui servaient donc de cobayes. Pourquoi est-ce que ce sujet n'est pas arrivé dans les discussions?
Alors, il est possible que, un petit peu comme la chose a été faite pour le personnel allemand qui travaillait notamment à Dora, il est possible que, si je peux employer des termes un peu pudiques, que le transfert de technologie qui se soit fait entre les nazis et les Américains ou entre les savants japonais et les Américains et plus intéressé que de mettre en accusation.
Je crois que Shiro Ishii a obtenu des Américains l'immunité en échange du résultat de ses recherches.
En échange du résultat des expérimentations. L'autre partie qui n'a pas du tout été mise, c'est la question des femmes de confort, c'est-à-dire des Coréennes qui ont été prostituées. Et ça, c'est une affaire qui revient constamment.
Oui, régulièrement. Ouais.
Constamment, régulièrement. C'est-à-dire que c'est une des revendications de la Corée. Ça permet de dire que aussi bien le massacre de Nankin que les femmes de réconfort, que l'immunité, le culte qui a été fait pour les chefs militaires, sont quand même des sujets récurrents en Asie, en Corée, en Chine et au Japon.
Pour conclure, Annette Wiewiórka, est-ce qu'on peut dire quand même que ce procès de Tokyo a permis l'émergence d'un nouveau Japon, moderne et démocratique, comme le voulait MacArthur ?
Alors je pense que ça a été un des éléments qui a permis effectivement le nouveau Japon, même si ce procès a été extrêmement imparfait, beaucoup plus d'ailleurs que le procès de Nuremberg.
Merci Annette Wiewiórka. Pour en savoir plus, je renvoie à la lecture de votre livre « Le procès de Nuremberg », disponible aux éditions Liana Levy. À lire également « Nuremberg, la bataille des images » de Sylvie Lindeperg, disponible en poche dans la petite bibliopayo, et « Le procès de Tokyo » d'Étienne Jodel aux éditions Odile Jacob. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin, à la technique Fabrice Desmaz et Titouan Labarre. Vous avez pu entendre G.I. Jive de Johnny Mercer et Amnésie de PR2B, des titres choisis par Jean-Baptiste Audibert. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série du Fil de l'Histoire. Comment en 1789 la Grande Peur a-t-elle embrasé les campagnes ? Je recevrai l'historien Jean-Clément Martin.